Bonjour à tous mes frères et sœurs. Psaume 2 en entier. Psaume 2e. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alors, quand même, ça ne veut pas dire que ça amuse Dieu. Cela veut dire que ça n'impressionne pas Dieu. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi, c'est Dieu qui parle, hein. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, ça veut dire honorez le Fils. Honorez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et heureux tous ceux qui se confient en lui. Gardez la page, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 21 jusqu'au verset 23. Il y a un texte merveilleux. Si vous reteniez la fin de ce verset 23 pour commencer cette année, vous seriez heureux. Vraiment heureux. Jean chapitre 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Dans 1 Jean au chapitre 2, la première épître de Jean, verset 18, il nous est parlé de la venue de l'Antichrist. Petits enfants, c'est un terme affectueux pour les nouveaux chrétiens, c'est très fraternel. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist, alors il y a des versions, vous avez anté ou anti? Vous voyez? Il y a les deux. Anté, ça veut dire avant. Anti, ça veut dire contre. Je pense que la version la plus propre, c'est anti. C'est contre le Christ. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Je relis. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Une dernière lecture, s'il vous plaît. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, c'est un texte qui concerne après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Antichrist, celui qui est contre Christ, se fera passer pour le Seigneur, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, des temps difficiles, une guerre terrible. Une guerre terrible, ce que nous vivons aujourd'hui, rien à côté de ce qui arrivera dans ce qu'on va lire. Mais quand même, on va le lire jusqu'au verset 10, s'il vous plaît. Et les chrétiens dont il est question dans ce chapitre sont tous les chrétiens qui se sont repentis après l'enlèvement, qui n'avaient pas Jésus pour Seigneur avant l'enlèvement et qui n'ont pas eu la grâce d'être préparés. Apocalypse chapitre 13. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. » Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Vous savez, c'est une bête qui n'existe pas, ça. Je ne veux pas faire de commentaires sur ce chapitre, mais vous comprenez bien que ça n'existe pas. Quand certains empereurs ont été comparés à un ours, à un léopard, etc., c'est des animaux terribles, mais là, c'est un animal encore plus terrible, parce qu'en vérité, il n'existe pas. C'est pour vous montrer la douleur de ce qui va se passer. La tête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. Regardez bien comment on va traiter le diable. Comment ils vont le traiter. Remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant « Qui est semblable à la bête ?» Et puis qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Amen. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. On revient au psaume 2 parce qu'il nous servira quand même de base. Est-ce que nous réalisons, aujourd'hui, le degré de confusion qui existe sur la terre? Est-ce que vous le réalisez? On voit certaines choses, on entend des infos, on voit peut-être des informations internationales, ce qui se passe en Israël, etc. Est-ce que nous réalisons ce qui se passe? Ou est-ce que nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne sommes pas peut-être conscients de tout ce qui est écrit prophétiquement et pour le coller à l'actualité? Mais est-ce que vous réalisez la peur qui augmente, l'angoisse qui augmente, le désespoir qui augmente? Est-ce que vous le réalisez cela? Est-ce que vous le réalisez vraiment? C'est quelque chose de terrible. Et quand vous lisez le psaume 2, c'est quelque chose de facile à comprendre. Vous voyez une chose, c'est que les hommes ne veulent pas de Jésus-Christ. C'est comme ça. On ne veut pas de Jésus-Christ. Ça a toujours été comme ça. Et ça fait en empirant. Quand vous lisez l'évangile, vous le voyez, le nombre de fois où Jésus même a dû se cacher, s'échapper, fuir. Mais quand il allait pour les bénir, et il était obligé de s'échapper, de fuir, parce qu'on voulait le tuer. Le monde a toujours cherché à se défaire de Jésus-Christ. Toujours. Mais le monde, c'est pas trop grave. C'est de bonne guerre que le monde ne veuille pas de Jésus-Christ. C'est normal. Le plus grave, mes frères et sœurs, le plus grave, c'est que l'Église aussi est en train de céder à cette pression. Et c'est là que nous devons absolument veiller. Nous ne nous rendons pas compte à quel point notre christianisme, notre pays, notre Europe est christianisé. Une fois, on avait une discussion avec des pasteurs et on parlait de la christianisation de la France. Et on disait, l'Europe a-t-elle été christianisée ou catholicisée? C'était un débat très intéressant en plus. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Et qu'est-ce que vaut notre christianisme en Europe aujourd'hui? Qu'est-ce que vaut le christianisme en France aujourd'hui? Est-ce que c'est un christianisme avec Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ? Vous savez certainement, vous avez certainement la réponse. Alors c'est sûr que si quelqu'un m'écoute pour la première fois, si vous découvrez l'évangile, ça peut vous faire sourire. Le christianisme sans Christ, Monsieur Gault, il n'a pas beaucoup dormi. Oui, c'est vrai. Mais je peux vous dire que nous en sommes là, il y a un véritable christianisme et on ne veut surtout pas de Jésus-Christ. Et ceux qui ne s'attachent pas à Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas sérieux avec la parole, ceux qui ne s'appliquent pas à obéir comme Jésus l'a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est quoi ce commandement? C'est quelque chose qui vous effraie ou c'est une invitation formidable pour vous? Vous savez, il y a des chrétiens, lorsqu'ils lisent un verset, ils le considèrent comme un commandement impénible. Moi, vous savez, plus je lis la parole, et plus à la place de voir des commandements, je vois de merveilleuses invitations de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous évoluez dans votre marche avec le Seigneur. Et les gens ne se détournent pas de la religion. La religion, il en faut, malheureux que tu es. Et puis on ne sait jamais. Si Dieu existe, je ne veux pas me faire enterrer premièrement comme un chien. On ne sait jamais. Et les gens n'abandonneront pas la religion. Je suis de telle dénomination. Hors de moi la pensée d'abandonner mon église, ma religion. C'est pas ça que je vous demande. Ce que je pose comme question par rapport au texte que nous venons de lire, est-ce que nous honorons le Fils ? Vous savez, c'est une chose de dire « je suis membre des assemblées de Dieu, je suis responsable des assemblées de Dieu, je suis dans telle église, dans l'église baptiste ou dans une autre dénomination ». Le Seigneur ne nous demande pas dans quelle dénomination nous sommes. Le Seigneur, il nous demande, vous l'avez lu avec moi dans l'évangile de Jean, est-ce que nous honorons le Fils ? Parce que celui qui n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père, et vice-versa, bien entendu. Quand vous lisez ce psaume 2, je ne sais pas la première fois que vous l'avez lu. Moi, la première fois que j'ai lu, c'est un psaume qui m'a interpellé, beaucoup interpellé. Quand on voit le premier, il est facile à comprendre. On m'avait dit, tu découvres l'évangile. Lis les psaumes, tu verras, c'est facile à comprendre. J'ai lu le psaume premier, bon, ça allait. Et quand j'ai lu le psaume 2, je me dis, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, mais on comprend bien qu'il y a quelque chose qui se passe et on comprend bien que tout ce qui a été fait par Dieu n'est pas le fruit du hasard, comme on l'entend de plus en plus, la venue de Jésus, il fallait qu'il vienne, c'est un homme qui est venu comme les autres, comme des hommes bons, comme des bons enseignants, comme des philosophes. La venue de Jésus, ce n'est pas le hasard du calendrier. La venue de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Vous l'avez lu avec moi, c'est écrit au verset 7, vous l'avez ce psaume, vous pourrez le relire. Et vous verrez combien Dieu avait tout déterminé, il le dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Vous l'avez comme ça dans votre Bible ? C'est moi, dit le Seigneur, c'est moi qui ai décidé que Jésus vienne sur la terre pour vous bénir. Sur ma montagne sainte, je publierai le décret, c'est quelque chose d'officiel. C'était dans l'éternité de Dieu, dans le plan de Dieu, que le Seigneur Jésus vienne. Mes frères et sœurs, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire la plus importante de l'humanité. J'avais entendu une émission, il y a de ça peut-être une vingtaine d'années, je vous dis ça pour que vous compreniez bien. Et c'était des historiens qui parlaient de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et ils expliquaient ce que la France aurait pu devenir si le général de Gaulle n'était pas intervenu. Vous allez me dire que je sors du sujet. Pas du tout. C'était très intéressant. Et la conclusion, c'était si le général de Gaulle n'était pas intervenu pour la libération de la France, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Alors c'était très intéressant. Et je pensais à ça hier, quand je préparais ma prédication, pour vous dire que les hommes, on ne sait pas trop si certains avaient été élus, vous voyez, tel homme a été président ou serait un autre, etc. On peut calculer ces choses. Mais là, il n'y a pas de calcul à faire. Dieu a dit, c'est moi qui ai décidé que Jésus-Christ serait le roi. Je l'ai décrété, c'est officiel. Vous savez, vous êtes sérieux dans cette assemblée, bien sûr, que ce que je vous dis ne vous choque pas. Mais nous ne nous rendons pas compte à quel point on est en train de se débarrasser du Seigneur Jésus. Je ne parle pas de Jésus qui bénit, je parle du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui devrait être le Seigneur de notre vie. L'histoire de Jésus, ce n'est pas le hasard. L'histoire de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Vous le croyez ? Il est venu pour vous parce qu'il vous aime et parce qu'il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. C'est quelque chose de sérieux. Je le dis, je sais que vous ici, ça ne vous étonne pas, mais il y a tellement de chrétiens qui se posent des questions, tellement de croyants qui ne savent plus où ils en sont. C'est merveilleux la venue de Jésus, et Dieu l'a voulu. Vous l'avez rencontré, ce sauveur ? Vous avez envie de le connaître davantage ? En 2017, ou est-ce que la connaissance que vous avez de votre sauveur vous suffit-elle? Ou est-ce que vous aimeriez le connaître un peu mieux? Eh oui, je pense que c'est notre désir. Dieu le dit, c'est moi. Hier, je connais ce psaume, je le connais presque par cœur, mais quand je lisais « c'est moi qui est ouin, mon roi », on se sent béni par cette parole, mes frères et sœurs. Oui ou non? Hein? Avant même la fondation du monde, on l'a lu dans Apocalypse chapitre 13. C'est pour ça que j'ai pris ce chapitre qui introduit cette progression dans cette guerre que nous sommes en train de vivre. Mais il n'y a pas que la guerre des nations, c'est une guerre spirituelle. Nous, on voit les guerres, une nation contre une nation. Tiens, on voit bien que l'Iran est contre Israël. On voit bien que telle nation est contre une autre, etc. Mais mes frères et sœurs, Jésus ne parle pas que d'une nation contre une nation. Il parle d'un royaume contre un royaume. C'est pas du tout la même chose. Les royaumes, c'est souvent des choses qui se passent dans l'invisible. C'est souvent des choses qui se passent dans le domaine spirituel. Le Seigneur Dieu a arrêté de toute éternité que Jésus serait le roi. Est-ce que Jésus est votre roi? Vous allez me dire, mais quelle question? Mais monsieur, vous, des questions comme ça, c'est pas la peine. Je pense que l'on peut poser à tous les chrétiens de France cette question. Est-ce que vous pouvez dire que Jésus est votre roi? Je ne parle pas du sauveur. Je parle votre roi. Est-ce qu'il règne dans votre vie? Qu'est-ce qu'il est pour vous, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Celui qui arrange les problèmes? Venez à Jésus, vous verrez, il arrangera tous vos problèmes. Ouais, le vrai coursier, quoi. On a présenté l'évangile, je ne sais pas si on ne s'est pas trompé, comment certains évangélistes ont présenté l'évangile. Je ne veux pas critiquer, bien sûr. Mais je crois que certains évangélistes ont mal présenté l'évangile. Venez à Jésus et vous n'aurez plus de problèmes, vous serez heureux. C'est pas vrai, ça. Venez à Jésus et vous serez sauvés. Vous allez me dire, ça ne tient pas à grand-chose. Mais quand on vit à Jésus, ce n'est pas pour ne plus avoir de problèmes. Bien sûr que le Seigneur s'occupe de tous nos problèmes, il l'a dit. Mais qui est Jésus pour nous? Est-ce que Jésus, c'est celui qui va arranger nos petits problèmes, celui qui va nous guérir quand on est malade? Plusieurs ont été guéris, oui ou non? On pourrait dire, mais oui, il guérit. Je peux le témoigner, je peux témoigner que Jésus guérit. Il m'a même guéri plusieurs fois, plusieurs pourraient se lever et le témoigner. Est-ce que ça ne serait pas bien même tout à l'heure de terminer, si quelqu'un est malade, qu'il vienne et que l'on prie pour lui, est-ce que Jésus peut le guérir? Bien sûr, mais il faut le faire. Si quelqu'un est malade, signalez-le et on va avec joie prier pour vous. Parce que Dieu guérit. Il a donné sa vie au calvaire, pas que pour le pardon. Il a donné sa vie au calvaire pour le pardon et pour nos guérisons. Mais est-ce que c'est juste celui qui console? Vous savez, moi je suis extrêmement peiné quand je vois comment on parle de Jésus. On parle de Jésus vraiment comme une roue de secours. On va à l'église quand on a des problèmes. Je me mets Dieu de mon côté parce que je ne peux pas. C'est de la superstition. Mes frères et sœurs, vous l'avez lu avec moi dans Jean 5, je le relis. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. C'est terrible, ça. Vous savez, des fois, je l'entends, ici c'est rare, c'est très rare. Mais quand même, comme je voyage un peu et que j'écoute et que je vois d'autres chrétiens, je vois bien combien certains ont encore ce travers de comparer leur religion. Le Seigneur ne nous parle pas de religion. Le Seigneur nous demande d'honorer le Fils. On l'a lu dans le psaume 2. Quand il est dit « baiser le Fils », c'est une allusion aux ennemis qui embrassaient les pieds de leurs conquérants, etc. Mais il y a là, bien sûr, une notion d'honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur, nos cultes. Pourquoi on est là, au fait ? Pourquoi on est venu dans la maison du Seigneur ce matin? Pourquoi moi le premier je suis venu? Parce que je suis pasteur et que je dois prêcher, que c'est mon gagne-pain? Ou est-ce que vraiment Jésus est mon roi? Vous savez, il n'y a que Dieu qui le voit. Il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. Oui ou non, c'est écrit? Est-ce que c'est écrit que Dieu regarde au cœur? Dieu parcourt la terre, c'est écrit plusieurs fois. Les regards de Dieu parcourent la terre pour voir celui qui le cherche. Pas celui qui l'invoque pour demander du secours, ce qui est bien en plus, parce qu'on sait que Dieu le fait. Mais Dieu regarde, et dans Ésaïe, vous connaissez ce texte, je crois que c'est dans Ésaïe 26, où il dit, mais quand ce peuple s'approche de moi, vous connaissez la suite ? Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y avait tout, il y avait le rite, les chants, les cantiques, le culte, l'approche, mais le cœur n'y était pas. Et Dieu le voit. Et ce matin, il voit dans quel état est mon cœur. Comment je viens, comment je suis venu, en plus, premier jour de l'année, premier dimanche de l'année, premier culte. Pour moi, c'est une bénédiction que d'être avec vous. Peut-être on sera tous au noces de l'agneau bientôt. Mais mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on est bien ensemble. Alléluia. Eh ouais, on est bien. Mais mes frères et sœurs, Dieu ne vous posera pas la question quand vous êtes allés aussi. Ah, vous étiez membre, tu étais membre des assemblées de Dieu à Saint-Agne. C'est bien. Non. La question qui nous sera posée, c'est est-ce que tu as honoré le Fils? Et ce psaume où on voit le monde qui se débarrasse du Christ, quand même nous invite, nous les chrétiens, à l'honorer vraiment. Et si nous voulons que sa présence se manifeste en 2017, si nous voulons voir des conversions, si nous voulons voir des fils prodigues revenir, si nous voulons voir sa volonté s'accomplir, moi je pense que nous avons tout intérêt à honorer le Seigneur. Être chrétien pour Dieu, bien sûr, pour être, comme je le disais tout à l'heure, pour les gens du monde, pour les gens, pour même pour beaucoup de chrétiens, soyons honnêtes. Pour beaucoup de chrétiens, être croyant, c'est être catholique, être protestant, être baptiste, être assemblé de Dieu, pour le monde. Être croyant, mais je suis dans un pays christianisé, donc je suis croyant. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui se disent croyants? Ben oui. Il y a plein de Français qui se disent croyants selon l'histoire française, selon la culture française. Il y a beaucoup de gens qui s'auto-proclament croyants. Mais du côté de Dieu, c'est pas pareil. Pour Dieu, être croyant, c'est honorer Jésus-Christ. Vous l'avez lu avec moi. Quand Jésus était sur la terre, il a rencontré beaucoup de gens qui savaient beaucoup de choses sur lui. Vous vous rappelez quand Nicodème a été le trouver, ce docteur d'Israël, c'était le pasteur des pasteurs d'Israël. Il était enseignant de tous les pharisiens, c'était quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses sur la loi. Et vous vous rappelez sa démarche, il l'a faite comment là, sa démarche? Il l'a faite de nuit, il ne voulait pas qu'on le voie, il avait certainement un peu honte. Après, c'est un homme quand même qui a fait d'énormes progrès, puisqu'on le voit à la mort de Jésus, apporter sa petite valise, laver les aromates. C'est un homme qui a beaucoup cheminé. Mais enfin, la première fois, il s'approche du Seigneur, la nuit, parce qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse, etc. Et qu'est-ce vous rappelez ce qu'il va dire? Nous savons. En plus, il se fait le porte-parole de plusieurs pasteurs. Et il dit, nous savons. Oui, il savait plein de choses. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons. Mais les pharisiens, ils savaient beaucoup de choses sur Jésus, mais ils l'ont crucifié. Nous savons. Et on pourrait prendre d'autres exemples, le temps ne nous le permet pas, bien sûr. On pourrait prendre plein d'exemples où nous voyons des hommes qui savaient beaucoup de choses sur Jésus. Et en préparant cette prédication, je pensais même le jour de l'arrestation de Jésus, où ils tous vociféraient, tous y hurlaient, crucifie-le, crucifie-le. Je me suis posé la question, parce que j'ai entendu plusieurs sons de cloche, je me suis posé la question, parmi cette foule qui hurlait, crucifie-le, crucifie-le, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient été bénis par le Seigneur? Et on peut se poser la question. J'espère que non, mais j'ai bien peur que comme aujourd'hui il y a des rétrogrades qui détestent Dieu, j'ai bien peur que dans cette foule, j'espère que je me trompe. C'est une analyse, mais j'espère qu'il n'y avait pas des gens qui connaissaient beaucoup de choses sur Jésus, et qui en était arrivé à ce point de eux aussi vouloir se débarrasser du Seigneur Jésus. Lorsque vous lisez les prophéties, vous voyez ce que Dieu demande. Quand vous lisez quelque chose, vous voyez comme là on voit ce que Dieu veut. Qu'est-ce que c'est être chrétien? Eh bien, j'honore le Fils. Et celui qui honore le Fils, il honore le Père. Bon, On voit ce que Dieu pense. Quand Jésus, quand Dieu prophétise la venue de Jésus, quelqu'un l'a dit, ça a été dit hier soir plusieurs fois dans la soirée de longue veille, ça a été dit dans la prière, on en rappelle, on le fait souvent et c'est bien, on rappelle dans la période de la naissance de Jésus, on rappelle la prophétie de Jésus il y a 750 ans avant la venue de Jésus, comment serait le Sauveur. On l'appellera, vous le savez par cœur maintenant, on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père Éternel et Prince de la Paix. Et c'est vrai. Alors, c'était ce que Dieu voulait. C'était ce que Dieu demandait. Vous comprenez? Dieu avait déclaré de la même manière qu'il a dit, il est le roi, je l'ai décrété. Dieu a dit, je veux qu'on l'appelle, comme nous venons de le citer, Admirable. Et quand vous lisez Ésaïe, c'est dans Ésaïe au chapitre 9, mais quand vous lisez quelques chapitres après, comment les hommes ils l'ont appelé? Nous l'avons méprisé, nous l'avons injurié, abandonné, je les ai marqués ces textes, abandonné des hommes, hommes de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il est dit qu'on l'a défiguré, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, maltraité, opprimé, défiguré, juste quelques chapitres après. Dieu avait dit, on l'appellera admirable, et nous l'avons dédaigné. Et c'est ça que l'on voit dans la parole de Dieu. Ce que le Seigneur demande, et comment les hommes l'ont traité. Est-ce que Jésus est admirable pour vous? Est-ce qu'il est admiré dans nos églises, dans toutes les églises? C'est quand même une question qu'on a le droit de poser. Dans notre pays de France, dans notre mouvement, bien sûr que moi je viens de vous dire que Dieu ne regarde pas la dénomination, mais quand même, on peut parler de nos assemblées. Est-ce que dans nos assemblées, Jésus est admiré? Comme Dieu le demande. Comme Dieu le demande. Quand on voit comment le monde s'acharne, quand on voit comment les scientifiques, qui eux seraient le plus susceptibles d'être émerveillés devant la création, vu la connaissance des lois mathématiques qui régissent l'univers, c'est quelque chose d'époustouflant. Moi, je suis novice dans ces choses, mais c'est merveilleux. Et les scientifiques s'acharnent, et des milliards sont dépensés pour envoyer des satellites, etc., pour essayer de chercher la vie ailleurs, pour prouver que Dieu n'existe pas. Ils vont avoir du mal quand même. Hein? Ils vont avoir du mal. Jésus est-il admirable ce matin? S'il venait ce matin physiquement dans l'assemblée, il y est quand même par son esprit. Et il voit nos cœurs et c'est important de bien réagir par rapport à des questions qui sont posées d'une manière saine et intelligente. Si Bartimée venait, tiens, ce matin, si Bartimée avait une dérogation de venir 5 minutes à Sainte-Agne, vous connaissez Bartimée, ce mendiant aveugle qu'on essayait de faire taire, etc. Et puis à un moment donné, quelqu'un l'a tapé sur l'épaule, écoute, prends courage, il t'appelle. Est-ce que vous pensez que si Bartimée était là ce matin, il nous dirait non, Jésus, il n'a rien fait? Ou est-ce que vous pensez qu'il dirait Jésus, il est admirable? Il m'a ouvert les yeux. Toute ma vie a été changée. Oui, il est admirable. Cet homme qui était malade depuis 38 ans, vous vous rappelez quand Jésus a été vers lui? Cet homme qu'on a mené certainement, il ne pouvait pas bouger. On l'a mené tous les matins à la piscine de Bethesda. Vous vous rappelez? Malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, on l'a mené à la piscine. Et quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Je n'ai personne. 38 ans, cet homme disait, j'ai personne. Vous connaissez la suite? Vous croyez que si cet homme lui aussi avait une dérogation pour venir témoigner ce matin, il pourrait dire, oui, je l'ai connu, je l'ai rencontré. Le Seigneur, il est admirable. Vous croyez qu'il le dirait avec beaucoup d'émotion? Eh ouais. Marie de Magdala, si elle aussi était venue en convoi spécialisé avec tous ses frères en dérogation, vous croyez qu'elle dirait, oui, je l'ai rencontré, il s'est mis sur mon chemin, lorsque j'étais possédé, Il est admirable, le Seigneur. Le brigand sur la croix. J'ai pensé à lui parce que cette semaine, il y a eu une sœur qui a eu un témoignage déplorable par rapport à une âme. Vraiment déplorable. Et je pensais à la façon dont Jésus a traité le brigand, cet homme qui n'avait fait... Qu'est-ce qu'il avait fait, cet homme, toute sa vie? Il avait gâché toute sa vie. Vous le connaissez, ce brigand, repentant. Il a gâché sa vie, il a gâché la vie des autres, il a tué des gens, il a fait souffrir tout le monde. Personne n'aimait croiser cet homme, on pourrait faire un listing impensable de tout ce que cet homme a fait. Et un jour, il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre, il a été condamné à mort. Et sa plus grande chance sur la terre, ça a été d'être crucifié à côté de Jésus. Vous êtes d'accord quand je vous dis que c'était sa chance? Oui ou non? Je crois que oui, franchement. Je crois que c'était une chance pour lui. Et là, bien sûr, il a fait comme les autres. Il a crié, il s'est moqué, il a insulté. Vous la connaissez cette histoire. Vous connaissez ces histoires par cœur. Hein? Et puis il a insulté et puis il s'est arrêté sur moi. Il a regardé le Seigneur. Il a écouté le Seigneur, il a entendu des paroles qui sortaient de sa bouche. Père, pardonne-leur. Il a vécu la prédication de la croix. Et à un moment, lui qui avait bousillé toute sa vie et celle des autres, il va faire une prière. Une prière. Une phrase. Et Jésus va lui dire, d'un regard peut-être, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que ce brigand, accompagné de la liste que je viens de citer, s'il était là ce matin, est-ce que vous pensez qu'il vous dirait, Jésus, il est admirable. Ma vie entière a été détruite et lui, en un regard, en une parole, il m'a sauvé pour l'éternité. Et quand on remet tout ça, tous ces témoignages dans le contexte du psaume 2, vous avouerez qu'il y a quand même un gros décalage. Quand on voit que les gens se débarrassent du Seigneur, on se débarrasse, délivrons-nous de ces chaînes, délivrons-nous de liens, pas de lien avec Jésus, pas de lien. Et pourtant, Dieu a dit, on l'appellera admirable, parce qu'il est admirable. Et on ne serait pas gêné de prendre la liste des hommes que dans les évangiles, l'apôtre Pierre, moi je t'abandonnerai jamais, moi je te renierai jamais, les autres oui, mais moi non, j'irai à la mort pour toi Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé la nuit d'après, devant une simple femme, mais t'étais pas avec eux, t'étais pas avec lui, mais non, je ne connais pas cet homme, mais t'es sûr? Ton langage nous fait penser que tu étais avec lui. Mais non! Et il a commencé à utiliser un bon langage grossier. Mais non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, cet homme. J'ai rien à voir avec lui. Et le coq a chanté. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible après? Que Jésus, il s'est retourné et il l'a regardé. Je vous laisse imaginer le regard de Jésus sur cet homme. Et quand Jésus l'a retrouvé au bord du lac, est-ce que Jésus lui a dit alors, Pierre, on fait le malin? On se croit meilleur que les autres? Je pense que c'est le moment de régler les comptes. Est-ce qu'il aurait pu lui parler comme ça? Ben oui. Et on n'aurait eu rien à dire et ça aurait été presque normal. Tu fais pas le malin maintenant. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Ouais. Moi, je crois que Jésus est admirable. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin? Mais qu'est-ce que vous lui dites? Il regarde à votre cœur. Qu'est-ce qu'on lui dit en ce moment? Qu'est-ce que je lui dis? Vous rendez compte, il s'est retourné. Je suis sûr que c'était un regard d'amour quand Jésus a regardé Pierre. Ou est-ce que c'était un regard en train de dire? Vous savez, nous, on a vite fait de... C'est pas vrai? On a vite fait d'avoir des regards désapprobateurs, parce qu'on parle avec la bouche, mais on parle aussi avec les yeux. Quand Jésus a dit « Venez à moi, vous tous », c'est pas merveilleux ça? Vous croyez que tous les gens qui étaient là étaient bien? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que vous lisez quelques chapitres après? Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est vrai que moi je réfléchis, je pense, parce qu'en pensant à ce chapitre 2, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont les vrais chrétiens, les vrais croyants, ceux qui n'ont pas Jésus pour sauveur, je regrette, ceux qui ont Jésus pour roi. Et c'est le rôle d'un serviteur de Dieu de poser vraiment la question, mais qui est Jésus ? Fait-il partie de ces croyants de la fin des temps qui vont sortir ? Vous l'avez lu avec moi, ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Et combien de gens, combien de prédicateurs, combien de serviteurs de Dieu, combien de chrétiens sont sortis du royaume. Ils ont cédé à la pression du monde, à la pression du diable, qui nous pousse à ne pas avoir Jésus comme roi. Alors on peut se dire, mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi c'est écrit comme ça? Brisons leurs liens, débarrassons-nous du roi. Parce que, bon, mais c'est écrit, c'est sûr. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est écrit ça? Ouais. Ça fait mal au cœur. Et pourtant, quand... mais regardez, je fais une petite digression. Vous savez, pendant le millénium, le diable, il est où pendant le diable pendant le millénium? Il est où? Dans les temps de feu. Il est condamné. Pendant 1000 ans. Donc pendant 1000 ans, il va y avoir un règne de paix sur la terre. Vous avez remarqué que juste avant le retour de Jésus-Christ, le diable est relâché de sa prison. Vous connaissez ces textes? Le temps qu'il est relâché, une foule grande comme le sable de la mer se lève pour faire la guerre à Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien que tous les hommes soient testés. On peut se demander, mais pourquoi Jésus relâche le diable pendant quelque temps après au bout de, avant la fin des 1000 ans? Eh bien parce qu'il faut que tous les hommes puissent choisir. S'ils sont oui ou non pour Jésus. Et quand vous lisez ça, vous dites, mais c'est pas possible. Les gens, ils auront vécu dans la paix. Et quand le diable est relâché, ben, ils vont choisir de lui faire la guerre. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. Franchement, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est comme ça de tout le temps. Les gens n'ont pas voulu de Jésus-Christ. Regardez quand il est venu. Marie a fait 160 kilomètres certainement à Dodane, de Nazareth à Bethléem. Elle arrive pour accoucher dans une hôtellerie. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'y a pas de place. Désolé. Ça a commencé bien, vous voyez. Jésus vient sur la terre, le jour de sa naissance, pas de place pour toi dans l'hôtellerie, la table, ça suffit. Ça fait peine quand même. Vous trouvez pas? Vous lui aurez donné votre chambre, vous? Ou le garage? Vous lui aurez donné votre chambre? Ben, je pense, ouais. Quand Hérode, je prends quelques exemples parce qu'il faut comprendre vraiment. Quand Hérode, le roi, apprend que Jésus est né, une comédie pas possible, mais où est-il? Dites-moi où il est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Je résume, mais c'est ça, hein? C'est ça ou non? Dites-moi où il est. Il avait le dessein de le tuer. Dieu a bien sûr pris ses précautions pour protéger le Seigneur Jésus. Mais vous savez ce qu'il a fait? Pour être sûr de pouvoir tuer Jésus, il a fait tuer tous les enfants de Bethléem et de sa région, tous les enfants qui avaient en dessous de 2 ans. C'est écrit ou c'est pas écrit? Tu te dis, mais c'est pas possible d'en arriver là. Quand Jésus est mort, voyons, on saute à la fin. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a fait faire, Pilate? Il a fait inscrire, c'est pas le hasard, il n'y a pas d'hasard dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait écrire au-dessus de la tête de Jésus, le panneau? Celui-ci est le roi des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, le sauveur, on en veut bien. Celui qui enseigne parfaitement, on en veut bien. Celui qui multiplie les pains, on le veut. Celui qui guérit les malades, on le veut. Mais le roi, on n'en veut pas. Et je nous pose la question, parce qu'on est devant Dieu cette année, se commence, c'est une grâce de commencer une année le premier jour, c'est un dimanche. Mais est-ce que Jésus est mon roi? Est-ce qu'il règne dans ma vie? Ou est-ce que c'est juste, enfin, c'est déjà pas mal le sauveur, mais à force de jouer, on finira par sortir. À force de jouer, si on n'a pas Jésus comme Seigneur, ça m'étonnerait que ça tienne longtemps. C'est ce qui explique pourquoi il y a tant de rétrogrades. Est-ce que Jésus est votre roi? Est-ce que vous pouvez dire, oui, Jésus est mon roi. J'aime la parole, j'honore Dieu, j'honore le Fils, donc j'honore la parole. Et si on avait le temps, on n'a pas le temps, mais si on avait le temps, on pourrait prendre ce qui s'est passé au fil des siècles. Comment les chrétiens, à partir du réveil, ont été persécutés, des églises entières ont été décapitées, amenées dans les arènes, brûlées. Seul le ciel nous montrera ce qui s'est passé, des églises entières qui ont été persécutées. Et après Constantin, vous savez, cet empereur qui s'est converti, on a commencé à changer la doctrine, on a commencé à enseigner qu'on pouvait prier un autre que Jésus. Vous lisez, moi je vous conseille le livre « Ce que dit le Christ ». Ça explique très très bien comment le monde religieux s'est débarrassé de Jésus. On a enseigné qu'on pouvait être sauvé par un autre que Jésus. On a enseigné, je viens de le dire, qu'on pouvait prier d'autres personnes que Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on s'est débarrassé, qu'on a toujours cherché à se débarrasser du Seigneur. Alors qu'on l'a lu, je l'ai décrété, tu es le roi pour toujours. Le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus. On va comparaître devant lui. Vous le savez, mes frères et sœurs, nous allons tous comparaître devant le Seigneur Jésus. Il faut que ce soit le meilleur moment de notre éternité. Vous êtes d'accord? Il faut que ce soit le moment le plus glorieux. Comment? En honorant le Fils. Ce n'est pas le petit Jésus. En France, quand on parle de Jésus, on parle du petit Jésus. La semaine dernière, j'ai regardé un petit peu les informations. Et bien sûr, on a parlé de Noël. De Noël, mais c'était quoi? C'était quelle était la plus belle crèche de France. Aucune allusion au Sauveur du monde. Aucune allusion à Jésus. La plus belle crèche. Et c'était merveilleux, bien sûr, c'était merveilleux. C'est comme ça qu'on fête Noël en France. On en parlait tout à l'heure, on fête en France le Noël des animaux. Vous savez qu'il y a une église en France où tous les ans à Noël, on amène les animaux pour les baptiser. Mais si vous avez un doute, vous tapez sur Internet, Noël des animaux, baptême des animaux, et vous verrez, une ribambelle d'animaux, la maman qui porte son petit chat, l'autre qui porte son petit chien, l'autre qui rentre en France avec son petit lama, l'autre avec sa chèvre, pour baptiser les animaux. Ça vous fait rire, mais ça vous montre comment on se moque de Dieu. C'est lamentable. En France, mais en France on a été fort pour ça. C'est un principe, on le voit dans le psaume 2, brisons leurs liens. Débarrassons-nous du roi. Et c'est pas fini. Et je plains tous les chrétiens qui n'ont pas Jésus pour roi, qui ne seront pas prêts lorsque Jésus va revenir nous chercher. Parce que le vrai drame, il est là. Tous les chrétiens qui sont pas prêts. Et c'est des doctrines. Vous savez, jusqu'à présent, vous voyez, moi aussi je change. Jusqu'à présent, quand on me parlait de certaines doctrines, je disais c'est un petit peu des... Parce qu'on a le droit quand même... comme disent beaucoup de théologiens aujourd'hui, de faire une lecture plurielle. C'est un mot à la mode, ça. La lecture plurielle, chacun interprète un peu la parole à sa façon. Mais je peux vous dire que quand on enseigne, aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, et dans notre mouvement, qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, moi je vous dis que ça vient des démons. C'est une doctrine de démons. Et je vais faire ma petite étude, pour rapport à tous ceux qui m'écoutent, qu'un chrétien, il peut perdre le salut, croyez-moi. Si on n'a pas le Seigneur pour Seigneur, s'il n'est pas notre roi, je me fais beaucoup de soucis. Oui, ils sont sortis du milieu de nous. Vous avez vu cette guerre qu'on a lue dans l'Apocalypse? Vous avez vu comment il le traite à la bête? Qu'est-ce qu'ils font à lui? Il l'admire, il l'adore. et il admire. Ça fait pitié, vraiment. Ça fait pitié. Amen. En tous les cas, mes frères et sœurs, on va terminer avec cette miséricorde de Dieu. Vous êtes dans le psaume 2. Moi, dans le psaume 2, autant c'est d'une sévérité, autant il y a encore une fois la miséricorde de Dieu. Regardez le verset 10, quand même. Le verset 10 est le dernier verset. Et maintenant, on voit encore la bonté de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça, maintenant? C'est une invitation. Si, peut-être il y a quelqu'un ce matin qui est comme ce brigand avant sa conversion. Vous ne vous êtes pas intéressé à Jésus-Christ. Vous vous êtes moqué de Dieu. Vous ne vous êtes pas appliqué à ce que Jésus soit votre roi, votre Seigneur. Vous l'avez juste accepté comme la quatrième roue de la charrette, ou comme la cinquième roue de la charrette, comme on dit. Vous voyez, juste quand j'ai besoin, je le prie. Oh oui, je sais qu'il exauce. Mais c'est pas ça. Ce texte, aussi sévère soit-il, se conclut, parce que Dieu bénit toujours ceux qui se repentent, et maintenant, il parle à tout le monde, roi, juge de la terre, il s'adresse à tous les hommes. Je ne sais pas qui c'est qui écoutera cette prédication sur Internet, mais que vous soyez un notable, que vous soyez un député, que vous soyez un ministre, que vous soyez le maire de telle ville, moi je vous dis, mettez-vous du côté du Seigneur. Mettez-vous de son côté. Votre rang, votre titre, votre position ne vous autorise pas à vous détourner de Jésus-Christ. C'est ce que dit ce psaume. Maintenant, on voit cette bonté de Dieu. Moi, je suis dans l'admiration, vraiment. Plus je lis la parole, et voyez, je m'en suis rendu compte hier, cette invitation. Et maintenant, servez l'Éternel, recevez instruction, conduisez-vous avec sagesse. Sagesse, c'est quoi? Eh bien, Seigneur, jusqu'à présent, je me suis comporté avec stupidité. Je me suis pas occupé de mon salut. Je me suis pas occupé de mon âme. Je n'ai pas compris qu'il va falloir que je te rencontre. Il faut se préparer à le rencontrer. Est-ce que c'est écrit? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est solennel. C'est une affaire terrible quand Dieu dit par l'apôtre Paul, cette parole que Monsieur Lafayette a mis sur le fond de l'église, soyez réconciliés avec Dieu. C'est que c'est sérieux. Si Dieu nous demande de nous réconcilier avec lui, ça veut dire que si on n'est pas réconcilié avec lui, ça va, il y a quelque chose de mal qui va arriver. Vous le voyez comme moi? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous dites, oui, j'ai accepté Jésus, je l'honorerai. J'honorerai la croix, j'honorerai le sang précieux du Seigneur dans les églises, le sang précieux. Mais vérifiez-le, vous le vérifierez. Vous irez dans des églises, on ne vous parlera plus de sainteté, on ne vous parlera plus de repentance, de s'humilier, de conversion, de nouvelle naissance, d'un baptême biblique, on ne vous en parlera plus. Débarrassons-nous de Jésus, du roi. On n'en veut pas. Et pourtant, son règne va venir. Vous le croyez que son règne va venir? Il va venir, notre roi. Mes frères et sœurs, maintenant, si ça n'a pas été, je le sais qu'on n'est pas tous au top, et je sais très bien qu'on peut perdre des mois, et des années, et des décennies, mais regardez cette bonté du Seigneur, maintenant que vous soyez un roi ou un simple sujet, qui que vous soyez, conduisez-vous avec sagesse. Seigneur, je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Vous avez vu cette invitation, et le verset 12, baiser le Fils, honorer le Fils. Seigneur, je t'honorerai. En 2017, je t'honorerai encore mieux. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas m'aider. On termine avec cette phrase qu'on a lue. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous voulez être heureux? Confiez-vous en lui. Confions-nous en lui. Je ne vous dis pas de prier. Les gens qui prient, ils ont un témoignage déplorable. Ils ne se confient pas en Dieu, ils se confient dans leur prière. Je ne vous demande pas de prier, mais de vous confier en lui. De toute façon, si vous vous confiez en lui, vous aurez du mal à ne pas prier. Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont heureux. S'il y a le malheur sur tous ceux qui rejettent le roi, il y a un bonheur profond pour ceux qui se confient dans le roi des rois. Jésus l'a dit, celui qui confessera mon nom devant les hommes, je confesserai son nom devant mon Père qui est dans les cieux. Ça vous agrée, ça? Ça vous agrée?
admirable. Regardez dans le dictionnaire. Sentiment de plaisir. Dictionnaire Larousse. Admirable. Sentiment de respect. Je le respecterai. Dans l'église de Sainte-Anne, en tous les cas, on fera tout pour respecter le Seigneur. On ferme les yeux quelques instants. On ferme les yeux. On est plein d'admiration, plein de respect, plein de plaisir, puisque c'est la définition du dico. Peut-être il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai besoin de ce que le roi me touche. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade, fatigué, découragé, qui veut renouveler sa vocation. Eh bien avancez-vous, on est devant Dieu, vous savez. Je vais demander aux frères, à M. Blanc, à Nicolas, à M. Blancou, Monsieur de Dieu, Janson, de prier pour ses frères ou sœurs qui viendraient. Nous sommes devant Dieu. Est-ce que Jésus est votre roi? Mon frère, ma sœur, si tu veux renouveler l'honneur que tu dois porter à Dieu, viens sur le devant. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, nous restons recueillis, c'est solennel, c'est archi sérieux. C'est pas du spectacle. C'est solennel, frères et sœurs. C'est solennel. C'est solennel ce moment. On reste recueillis tous. Et croyez que Dieu honorera la prière. Si vous honorez le Fils, le Père vous honorera. C'est pas une parole en l'air. C'est la vérité. Béni soit l'Éternel.